place publique. Le climat politique ne cesse de se tendre à Moutier depuis plusieurs semaines. Preuve en est la séance agitée lundi soir au Conseil de ville. Les partisans du maintien de la ville dans le canton de Berne se disent victimes de discrimination et font tout pour se faire entendre. Alors, cri d'alarme légitime ou stratégie politique, on en débat avec deux élus dans un instant. La cybercriminalité explose, les malfrats sont toujours plus actifs derrière nos écrans. Le signe que la répression et la prévention sont encore insuffisantes, c'est ce que nous dira Stéphane Corr, expert en questions numériques. Ce sera aux alentours de 18h35. Enfin, nous parlerons gros sous pour la culture. Faut-il davantage de moyens publics pour soutenir ce domaine d'activité? La question agite le canton de Neuchâtel cette année. Deux représentants des milieux culturels de l'arc jurassien nous rejoignent pour en parler en dernière partie d'émission.
Jusqu'à 19h, place publique. Gabriel Devecq.
Bonsoir à tous. Moutier connaît ces dernières semaines un regain de tension. Les partisans du maintien de la ville dans le canton de Berne dénoncent un climat délétère. Emmené par l'association Moutier Résiste, il se déclare victime de discrimination, de menaces et d'agressions. Un message passé récemment auprès des élus bernois au Palais fédéral, mais aussi lors du Conseil de ville lundi soir, avec une banderole déroulée pendant la séance. Plusieurs habitants aussi témoignent de leur ras-le-bol, ça c'est dans les médias nationaux, tandis que le groupe Bélier lui refait parler de lui. Pourquoi cette poussée de fièvre à quelques mois d'une décision très attendue concernant l'invalidation du vote? On en parle avec deux invités. Steve Leschaud, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Vous êtes conseiller de ville à Moutier pour le Parti libéral radical. Et Julien Berthold, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes conseiller de ville à Moutier, PCSI. Alors on commence avec vous, Steve Leschaud. Vous êtes fait l'auteur d'une tribune publiée lundi dans Le Temps. Vous interpellez les romans au sujet de ce qui se passe à Moutier. Vous décrivez une ville qui se meurt en raison d'un climat nauséabond lié à son avenir cantonal. Qu'est-ce qui vous a incité à prendre la plume, on va dire, cette semaine plutôt qu'un autre jour? Quel a été l'élément déclencheur?
Je dirais il y en a plusieurs, des éléments déclencheurs, ça fait juste une forme d'accumulation. Et je pense en fait que l'on ne peut plus taire ce qui se passe à Moutier et qu'il est devenu essentiel de créer, je dirais, les conditions d'une perception un peu plus juste de la réalité et d'un débat plus objectif, je dirais plus large aussi, plus ouvert, d'où ma tribune. Je pense qu'il n'y aura en fait pas de réconciliation, pas d'avenir pour Moutier sans un minimum de justice, d'objectivité et de justesse. Si vous permettez, je vous donne juste un exemple. L'annulation du scrutin du 18 juin ne s'est pas fait parce que la préfète était bernoise, revancharde ou manipulée, comme on a pu le dire, ou qu'il s'agissait, comme le gouvernement jurassien l'a dénoncé, d'une décision politique. Le scrutin a été annulé car il n'était pas exemplaire comme attendu, mais il a été entaché de plusieurs irrégularités de la part des autorités autonomistes.
Alors ça, on le sait. Mais qu'est-ce qui vous a fait agir, qu'est-ce qui vous a fait réagir cette semaine plutôt qu'il y a 6 mois en arrière, par exemple cet automne?
Je pense que nous fonctionnons en boucle, à Moutier, en vase clos, en circuit fermé. Et puis, il est très important de porter, à mon avis, le débat sur un plan plus large, parce que la problématique de Moutier touche la Suisse dans son ensemble, questionne la démocratie et les institutions dans son ensemble.
Très bien.
Et je dirais sur un plan personnel, j'ai aussi envie de dire que je suis quelque part agressé par une dimension totalitaire, je dirais, du séparatisme, en tout cas de la façon dont il est vécu à Moutier. J'aimerais juste parler de la manifestation du 9 novembre où mon fils, qui s'est retrouvé sur la place de la gare, a été confronté à un groupe de gens qui criaient « Moreau Bernois ». Je suis atterré que des paroles en 2019 puissent être prononcées en Suisse. Monsieur Berthold peut...
Steve Leschaud, absolument. On va laisser la parole à Julien Berthold. Alors, les membres du camp antiséparatiste, ou ceux qui ont des sympathies pour cette cause, donnent de la voix, hein, avec parfois une rhétorique pour le moins offensive. On en veut pour preuve Moutier Résiste, qui évoque quasi un climat de guerre civile dans sa dernière brochure. Les éléments que viennent de souligner Steve Leschaud font aussi partie de ce qu'on peut lire et entendre ces derniers temps. Est-ce que c'est aussi votre constat? Comment vous expliquez cette poussée de fièvre? Dans quelle mesure vous la prenez au sérieux, Julien Berthold?
Alors écoutez, je pense qu'il faut déjà commencer par arrêter de dramatiser cette affaire. L'ambiance à Moutier est très très bonne, à part dans les sphères politiques. C'est le seul endroit où il y a vraiment des tensions. Au niveau de Moutier, quand on discute avec des gens, les gens se sentent très bien Moutier, ils ne se sentent pas menacés. Je pense qu'au niveau du vote du 18 juin, le seul sentiment qu'il peut y avoir vraiment dans la population, donc je ne parle pas des gens qui soient vraiment impliqués en politique, mais c'est plutôt un sentiment de ras-le-bol parce qu'ils en ont marre d'attendre finalement que le vote pour lequel ils ont voté, une décision a été prise, soit validée. Je pense que ça a beaucoup de notre traîné, puis c'est le seul sentiment maintenant dans la population. On peut le voir. Toutes les manifestations qui sont faites à Moutier se passent très très bien. On a eu la braderie qui a eu lieu juste après le vote, ça s'est très bien passé. La fête de la vieille ville une année après, ça s'est très bien passé. Même la fête des Pro-Bernois le 16 mars dernier à Moutier n'a eu aucun débordement. Donc je pense qu'il faut aussi arrêter de toujours dramatiser cette situation à Moutier. Il n'y a pas de problème.
Steve Leschaud, vous donniez l'exemple de votre fils qui a subi des colibets de la part d'une partie de manifestants. Mais en général, c'est ce qu'on entend de Julien Berthold, tout a l'air de bien se passer. Est-ce qu'il n'y a pas malgré tout un peu trop de dramatisation ?
Écoutez, j'ai écouté avec beaucoup d'intérêt et d'attention l'émission Vacarme sur la RFR cette semaine. Et on a quand même entendu parler de passablement de commerçants de Moutier qui se plaignaient, dont une commerçante, Juracine Sauvereur, qui a dit que beaucoup de gens ont tourné, ne vont plus de son magasin ou ont carrément tourné le dos à la ville. Donc, quelque part, la vérité se situe peut-être au milieu de tout ça. À titre personnel, j'ai toujours habité la ville de Moutier avec beaucoup de plaisir. Je me demande si c'est encore possible à l'avenir. Je dois avouer que j'habite Moutier avec un peu moins de passion qu'une dizaine d'années.
Julien Berthold, est-ce que vous n'admettez tout de même pas que, au-delà de la sphère politique en particulier, ce climat un peu poisonneux s'est répandu plus profondément au sein de la population et a des incidences très directes, y compris pour la vie locale ?
Alors écoutez, je pense pas, je pense que des exemples comme cite M. Leschaud, il y en aura dans les deux cas. Là, en l'occurrence, cette commerçante prévotoise, c'est plutôt des pro-bernois qui vont plus chez elle. Donc je ne peux qu'inviter M. Leschaud à faire un peu plus de pub dans son camp pour leur dire de parler.
Je m'excuse, mais je n'accuse aucun camp. Je relève simplement, je dirais que la question institutionnelle, elle a détérioré le climat général de la ville. Je pense que tout le monde porte une partie de responsabilité. Il ne s'agit pas d'accuser les Joachiens ou les propriétaires de quoi que ce soit, mais cette question institutionnelle a péjoré le climat de la ville, à mon avis.
Intéressant, Julien Berthold, vous ne croyez pas qu'on peut justement sortir d'une forme de dialogue un peu binaire, le camp antiséparatiste, le camp pro-jurassien, est-ce qu'il n'est pas temps d'essayer de trouver, de renouveler le dialogue, une troisième voie ?
Disons que je le dis et je le répète, dans la population, il n'y a pas vraiment de problème. Au niveau du conseil de ville, au niveau des autorités, c'est normal. On n'arrivera jamais à trouver un parlement où tout le monde est d'accord. Il y aura forcément des tensions. Maintenant, dans la population, les gens, si on ne leur parle pas de questions jurassiennes, ne vont pas en parler spontanément. Je prenais des exemples de toutes les fêtes qui se passent à Moutier, mais jamais on parle de politique dans ces fêtes-là. Alors j'invite M. Leschaud à peut-être sortir un peu plus de chez lui et puis participer à tous ces événements, puis il verra que ça se passe très bien. Le marché du vendredi soir, tout le monde peut y aller, il n'y a personne qui se fait insulter, il n'y a aucun problème.
Steve Leschaud, il y a quand même deux lectures. Difficile pour un observateur extérieur de se faire une idée, de croire plus l'un que l'autre.
Oui, il y a deux lectures, mais enfin, tout le monde a le droit d'être entendu. Toutes les sensibilités peuvent être écoutées. Et je pense que les gens qui se plaignent méritent aussi d'être écoutés et ne racontent pas des choses qui n'ont aucun lien avec la réalité.
Mais si on vous retrouve dans un petit instant pour
Oui, j'aimerais juste encore signaler justement le cas de cette concitoyenne qui a lancé ce mouvement Réconciliation, qui s'est fait, qui a subi des actes directs de malveillance. C'est quand même assez dommageable, je dirais, pour l'esprit du vivre ensemble.
Eh bien, on va en parler dans un instant.
Chez elle.
Place publique. Gabriel Devecq.
Et on poursuit notre débat sur le climat tendu à Moutier, en tout cas au niveau des milieux politiques, voire même au-delà. Une question à vous, Julien Berthold, conseiller de ville à Moutier pour le PCSI. Est-ce qu'au niveau politique, où là vous admettez quand même qu'il y a des tensions, pour vous c'est normal, est-ce qu'il n'y aurait pas quand même aussi une nécessité de pacifier un peu le climat, y compris au niveau des groupes comme le groupe Bélier, par exemple, qui vient de se fendre d'une action censée être humoristique, mais qui... apparemment jette de l'huile sur le feu, construire un mur devant la personne qui est l'auteur d'un projet nommé Réconciliation.
Alors écoutez, je pense que c'est... Déjà, apparemment, ce n'est pas le groupe Bélier qui a fait cette action.
Il l'a relayé en tout cas sur Facebook. Voilà.
Mais je pense que cette action était assez bon enfant finalement. Elle a fait de mal à personne. Il y aura forcément toujours des actions politiques. On a vu une banderole dépliée lors du dernier conseil de ville par des membres de Moutier Résiste. Je pense que finalement, c'est pas méchant, c'est bon enfant. Puis ça met un petit peu de bonne humeur dans ce débat politique aussi.
Steve Leschaud, on voit qu'il y a cette notion de dramatiser ou non ces événements. Pour vous, c'est grave ?
Grave, en tout cas, ça me heurte considérablement d'entendre quelqu'un dire que c'est une action simplement bon enfant que de dresser un mur devant la maison d'une concitoyenne. Je pense que c'est un délit qui est poursuivi d'office. Si des délits poursuivis d'office sont des actions bon enfant pour M. Berchtold, le dialogue s'avère difficile à mon avis.
Et quel regard vous posez, Steve Leschaud, sur la rhétorique de, par exemple, Moutier Résiste, qui, dans une dernière brochure, évoque vraiment en mots très, très offensifs le climat actuel. Est-ce qu'il ne serait pas temps, quelque part, de prendre un peu de distance? Parce que les enjeux pour Moutier, il y en a. On le sait, l'avenir de l'hôpital qui a fait parler de lui ces derniers jours. Il y a les finances, évidemment, la démographie. Est-ce qu'il ne faudrait pas passer quand même à autre chose de part et d'autre?
Absolument, je pense que c'est urgent de prendre un peu de la distance, mais je dirais plus que de la distance, il faut surtout prendre de la hauteur. Et puis de la hauteur, moi je m'attends des autorités communales, du maire, pour que finalement ils jouent leur rôle qui est le leur, c'est-à-dire le rôle de pacificateur, d'unificateur, et pas de personnes qui sont engagées au service d'un combat à sens unique, simplement. Donc je pense que l'exemple doit venir d'en haut, y compris des gouvernements cantonaux, jurassiens, entre autres.
Julien Berthold, c'est quelque chose que vous entendez? Vous êtes d'accord avec cette vision?
Écoutez, je pense qu'on peut déjà faire une petite précision, c'est que, rassurer tout le monde, le conseil de ville de Moutier ne se contente pas de faire que de la question jurassienne. La grande majorité des thèmes qui sont traités par le conseil de ville n'ont rien à voir avec la question jurassienne. Mais assez paradoxalement, je trouve... C'est plutôt les milieux pro-bernois qui ramènent toujours un peu toutes les thématiques à la question jurassienne. On vote sur des... Comme ça, j'ai souvenir, l'année passée, on a dû voter sur la création d'une maison verte à Moutier, qui était pour accueillir des enfants. La votation a fini sur le plan de la question jurassienne, parce que les mouvements pro-bernois ont dit « Ah, mais les autonomistes, vous dépensez toujours tous les sous ». C'est vraiment... Je trouve que c'est presque malsain de ramener toujours tout à cette question.
Donc, prendre de la distance, quelque part, vous êtes d'accord? En tout cas, c'est pas toujours facile d'en rire de cette question. Nos confrères de l'émission 120 minutes, l'émission humoristique, la RTS, qui était en tournage aujourd'hui à Moutier, a eu pas mal de peine, apparemment, à trouver des figurants, notamment dans un des camps, pour leur sketch. C'est pas ça, une partie de la solution, savoir un peu en rire, Steve Leschaud?
Oui, on peut rire de tout, mais comme on dit, peut-être pas toujours avec n'importe qui. Mais c'est vrai que, je dirais, c'est difficile d'en rire, à part du moment où les impacts sur la réalité quotidienne, les impacts sur les emplois sont vraiment effectifs. On pourrait peut-être s'en amuser s'il s'agit d'un simple jeu d'esprit ou je ne sais pas, mais si l'on se réfère encore à ce mur qui a été posé devant la maison de Mme Grimm, je veux dire, il ne s'agit pas de quelque chose qui prête à rire, à mon avis.
Julien Berthold, pour conclure.
Alors écoutez, je pense que il faut rire de tout. C'est une question qui est très importante à Moutier, mais bien entendu, on peut rire de tout avec tout le monde. Moi, j'ai absolument aucun problème avec les pro-bernois. D'ailleurs, je travaille même avec Patrick Tobler, qui est président de l'UDCJB à Moutier. On s'entend très, très bien. Mais forcément, quand on parle de la question jurassienne, ben, on ne sera pas d'accord. Puis on ne va pas réussir. Je ne vais pas pouvoir lui changer son avis, puis lui non plus. Et puis je pense qu'il faut continuer le dialogue comme ça. Et puis on se réjouit d'avoir une décision du tribunal administratif sur le vote de Moutier.
Merci à tous les deux d'être venus parler de ce climat à Moutier qui est un peu tendu ces temps et qui risque de l'être encore jusqu'à cette décision tant attendue. Et on vous souhaite une bonne soirée à tous les deux.
Merci, bonne soirée.
Et on précise encore que 120 minutes... Bonne soirée, merci. On précise encore que 120 minutes, donc on en parlait à l'instant, fera un direct à Moutier le 6 avril, dès 20h10 à l'ancien stand à Moutier. C'est public, possibilité de réserver sur le site de l'émission. Voilà, on va passer à une question de cybercriminalité.
Place publique.
En effet, la criminalité baisse, sauf sur Internet où elle est en nette augmentation. C'est le constat dressé cette semaine par l'Office fédéral de la statistique et par plusieurs polices cantonales, y compris dans notre région. Vol de données numériques, escroquerie aux petites annonces en ligne, demande de rançon, etc. Les malfrats délaissent le pied de biche pour les écrans. On en parle avec vous, Stéphane Corr. Bonsoir.
Oui, bonsoir.
Vous êtes conseiller en questions numériques. Est-ce que la cybercriminalité explose ou est-ce qu'on dispose simplement de plus de moyens pour l'identifier? Un peu un effet de loupe.
Alors, c'est plutôt une combinaison de plusieurs facteurs. C'est vrai qu'il y a peut-être plus de moyens de l'identifier, mais il y a aussi une utilisation qui se fait de plus en plus forte, c'est-à-dire que notre société se transforme numériquement. De plus en plus de services sont dématérialisés, de plus en plus de choses se font à travers Internet. Et donc, de manière assez logique, il y a aussi une recrudescence de la criminalité par tous ces aspects-là. Beaucoup d'arnaques, beaucoup de fraudes à l'astuce, entre autres aussi, qui peut se faire grâce à cette dématérialisation ou à cause de celle-ci.
Et on parle du sommet de l'iceberg.
Oui, alors tout n'est pas dénoncé, c'est comme des agressions et autres, quand les gens se font avoir à travers, par exemple, des cas de sextorsion, donc chantage, soit des chantages à la webcam par rapport à des contenus à caractère sexuel, ou toute cette campagne qui avait commencé en août de la 2018 avec des emails que les gens recevaient alléguant qu'ils avaient été visités des sites pornographiques et que maintenant on avait piégé l'ordinateur et qu'ils devaient payer. Ben, beaucoup de personnes ont payé alors que c'était une arnaque, c'est-à-dire qu'il n'y avait rien derrière et des gens ont payé simplement pour se préserver, mais ils n'ont pas été annoncés ça à la police. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de cas qui ne sont pas forcément dénoncés parce que les gens veulent se préserver en termes de réputation par rapport à leur image, pas perdre la face. Donc oui, ça ne représente pas la réalité de la situation, ces chiffres.
Un tabou. La cybercriminalité, c'est un phénomène bien sûr très vaste, hein, qui décrit autant l'escroquerie, par exemple l'achat d'un téléphone sur Internet qui n'arrive jamais à destination, que la pédopornographie, du piratage de données, ou bien encore une carte bancaire, du chantage, vous l'avez dit. À chaque fois, est-ce qu'il y a une imprudence de la part de la victime? Est-ce qu'on fait quelque chose de faux? Ou est-ce qu'on peut se faire attaquer, quelles que soient les précautions prises?
Alors, c'est un mélange de nouveau. Il y a de l'imprudence, il y a surtout un manque de conscience sur la réalité de la manière dont des fraudes peuvent se commettre et sur la vulnérabilité qu'on peut représenter face à celle-ci. Donc, il y a tous ces aspects à prendre en compte. En fait, il y a aussi le fait qu'il n'y ait pas de frontières par rapport à Internet, et donc les délits peuvent être commis depuis à peu près n'importe où du moment qu'on est connecté. Et puis après, au niveau de l'identification des problèmes, là, il y a un grand manque parmi la population. Mais il y a un grand manque, c'est pas à charge que je le dis, c'est plutôt de dire que les choses n'ont pas été faites pour que les gens soient capables de détecter ces problèmes et ces fraudes. On n'a jamais appris aux gens à lire une URL, ça fait 30 ans que le web existe, mais on n'a pas appris à l'école à lire un lien Internet. Le lien Internet, c'est le chemin à une information, et très souvent, dans les cas de ce qu'on appelle du phishing, eh ben, ces arnaques sont basées sur une transformation de ce lien, une modification de l'apparence, et si on éduquait un peu mieux les gens, ben, on leur permettrait de mieux s'éduquer, on arriverait à réduire quand même drastiquement ce type de fraude.
On a l'impression aussi que la police doit rattraper un certain retard, hein, pour lutter contre ces crimes numériques. Il y a une coordination nationale qui est en cours d'étude. Est-ce que les pouvoirs publics ont pris la mesure du phénomène et de notre vulnérabilité?
Alors, la police fait avec ce qu'elle a, quelque part, et avec ce qu'on lui permet d'avoir. Et ça, c'est important de le comprendre. Et puis, il y a aussi le fait que la police, quand elle forme des gens, ces gens se font des fois, quand ils deviennent très spécialisés, se font débaucher par le secteur privé, parce que c'est des profits de haut vol. Donc, oui, il y a une prise de conscience politique qui a tardé, qui n'est pas encore totalement là non plus. Voilà, il y a des moyens à donner, et il faut aussi comprendre que ça coûte cher et que c'est pas que la police, hein, c'est aussi la justice. Les juges doivent être formés pour pouvoir traiter ces cas et accélérer le traitement de ces cas. On doit avoir des brigades plus autonomes, c'est-à-dire que aujourd'hui les brigades de criminalité informatique dans les services de police viennent en support à d'autres brigades. Donc on doit peut-être faire comme à Zurich, où on a une brigade qui gère ça à 360 degrés. Donc tout le processus de A à Z, du dépôt de la plainte au traitement judiciaire, tout est fait par cette unité. Donc il y a encore beaucoup de progrès à faire, beaucoup de coordination à mettre en place, beaucoup aussi de coordination au niveau international.
Mais il y a aussi une forme d'impunité, hein, parce que rien n'est encore tout à fait en place, à vous entendre. Est-ce que c'est l'âge d'or de la cybercriminalité, en attendant que, justement, la police se coordonne, que la justice soit à la hauteur?
Disons que les cybercriminels sont beaucoup plus dynamiques que peut-être les ceux qui doivent réagir, c'est-à-dire peut-être nos autorités politiques qui sont elles plus laxistes par rapport à ces problèmes. On voit que on a la peine à réviser aussi le code pénal pour des fois sanctionner un peu plus et un peu mieux et de manière plus précise les différents types d'arnaques en ligne, de fraude et autres. On a de la peine à peut-être améliorer cette collaboration au niveau international. Il y a des traités qui existent, hein, la convention sur le cybercrime et autres, mais c'est pas suffisant et c'est pas assez abouti. Donc là vraiment on n'est pas dans un âge d'or, on est dans quelque chose qui va encore augmenter et ça va continuer à augmenter tant qu'on n'aura pas pris des mesures à la hauteur du problème.
J'ai l'impression qu'on peut plutôt parler de prévention, c'est là que c'est porteur, ou d'empêcher la cybercriminalité, mais pas trop de la réprimer, tellement encore une fois ce crime est sans frontières.
Alors l'idée c'est quand même de pouvoir la réprimer, mais c'est clair, ce que vous dites c'est le point le plus important, c'est-à-dire la prévention, l'éducation à cette hygiène numérique ou à cette littératie numérique. Donc ça devrait commencer dans les écoles et on doit mettre en place les éléments nécessaires pour que les gens puissent se former en ligne, puissent accéder à des choses qui sont suffisamment vulgarisées et à la portée de tout un chacun pour comprendre ces différents points. Et ça doit être fait par des autorités pour qu'on puisse avoir une crédibilité dans les contenus qu'on propose aux gens pour qu'ils puissent se mettre à niveau.
D'autant plus important pour vous, d'autant plus important, pardon, que pour vous, c'est pas seulement le désarroi de la victime, hein, qui est en jeu, mais aussi tout un système, le système économique de nos sociétés.
C'est exactement ça. C'est-à-dire que si par exemple, on prend la cybercriminalité représente 1-2 milliards de fraude par année, c'est 1 ou 2 milliards qui sont pas investis sur le sol helvétique, c'est de l'argent qui est retiré de l'économie, c'est-à-dire que c'est de la croissance peut-être qui est touchée, c'est la confiance des ménages, c'est l'investissement, c'est la dépense sur le sol helvétique. Donc il y a vraiment plein de facteurs qu'il faut prendre en compte et aujourd'hui il faut le prendre sous cet angle-là aussi et pas simplement sous l'angle criminel et s'arrêter là.
On l'a vu avec la récente enquête de la RTS sur ces adresses e-mail piratées, avec des passwords aussi. Est-ce qu'on nage pas quand même en pleine naïveté dans ce domaine?
Alors, dans ce qui est arrivé, c'est-à-dire les gens ont fait confiance à des plateformes. Ces plateformes ont été victimes d'attaques et on a volé des données. Dans ces données, il y avait les mots de passe et les noms et les adresses e-mail des détenteurs de comptes. Alors, on peut pas faire grand-chose face à ça en tant que détenteur de compte. Par contre, on peut avoir une hygiène numérique correcte, c'est-à-dire que quand on se tient au courant et quand une de ces plateformes se fait pirater, on change son mot de passe, on a des mots de passe différents pour chaque compte qu'on a. On a un gestionnaire de mots de passe, on active la double authentification, c'est-à-dire qu'en plus du mot de passe, on doit mettre un deuxième élément qui nous est communiqué soit par SMS, soit par une application depuis le téléphone, qui nous permet d'ouvrir l'accès au compte. Donc aujourd'hui, c'est des conditions qui sont indispensable, primordial à mettre en œuvre en tant qu'utilisateur, parce que derrière, c'est pas juste un compte qu'on nous vole, mais ça peut être une partie de notre vie. Et finalement, Internet nous représente de plus en plus au niveau de notre vie de tous les jours ou de notre vie professionnelle. Donc l'impact de ces différentes fraudes ou vols de données est autant personnel que professionnel et peut avoir des coûts non seulement économiques, mais aussi des coûts sur le long terme au niveau de l'emploi et au niveau de sa vie privée.
Merci beaucoup Stéphane Corr pour votre éclairage, on le rappelle, hein, vous êtes conseiller en questions numériques, des enjeux d'autant plus importants, et on en reparlera que l'Internet des objets arrive en courant dans nos maisons. À bientôt et bonne soirée.
Oui, merci à vous, au revoir, bonne soirée.
Place publique.
Qui doit financer la culture et avec quel montant? La question est d'actualité dans le canton de Neuchâtel, qui met en chantier sa législation en la matière. Une nouvelle loi devrait voir le jour l'année prochaine. L'occasion pour les acteurs et les actrices de la branche de revendiquer l'octroi d'1% du budget annuel pour la culture, soit quasiment deux fois plus d'argent qu'actuellement. Cette demande a été adressée au gouvernement lors de la première journée cantonale de la culture. C'était samedi dernier au théâtre de l'Heure Bleue à La Chaux-de-Fonds. Et au-delà du contexte purement neuchâtelois, on va tenter de savoir pourquoi l'argent public est indispensable à la bonne marche de ce secteur d'activité, selon ces acteurs, notamment dans nos régions, avec deux invités pour en débattre. Mathieu Béglin, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes membre du comité de la FNAC, la Fédération neuchâteloise des actrices et acteurs culturels, et avec nous également Lionel Gaffner, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes administrateur du Forum Culture, réseau des arts de la scène de Bienne, du Jura bernois et du Jura, ainsi que du SAS à Delémont. Soyez les bienvenus. Mathieu Beglin, on commence avec vous. Vous demandez à l'État de quasi doubler son soutien à la culture. Voilà qui peut sembler exagéré à l'heure où chaque franc est compté. Hein. Qu'est-ce qui justifie pareille démarche? Puis comment vous fixez cette limite?
Bon, écoutez, déjà, si on demande d'atteindre 1%, c'est qu'on n'est pas très élevé. Ça veut dire quand même que l'État actuellement est loin de consacrer l'équivalent d'1% de son budget au soutien aux activités culturelles. Ce qui est très peu, ça le place en 19e position suisse en comparaison intercantonale en termes de montant octroyé à la culture par habitant. Donc le canton de Neuchâtel, il est 19e, il est dernier roman. Et donc derrière, c'est Nidwald, c'est Schwitz.
Parce que les communes donnent plus, la loterie romande aussi. Donc au final, le canton de Neuchâtel n'est pas si mal placé.
Le canton de Neuchâtel en tant qu'État est mal placé. Après, l'entier des collectivités publiques et parapubliques, si on tient la loterie, oui. Mais les villes, je vous rappelle que le chiffre est biaisé parce que les villes soutiennent, à l'exception faite du Laténium, tous les musées du canton. Donc en ville de Neuchâtel, par exemple, qui a un budget inférieur d'environ 10 fois à celui du canton, le budget culturel est supérieur à celui du canton en ville de Neuchâtel, mais la moitié part dans les musées. Donc la question, c'est aussi la création artistique dans tous les domaines, mais c'est aussi la consolidation pour nous de toute une série d'événements. La loi, elle a 25 ans. Et en 25 ans, beaucoup de choses se sont développées. La plage des Cipons, Bleunif, le théâtre du Passage, il y a beaucoup de choses qui se festinent chez autres. Et il faut consolider aujourd'hui ces manifestations, faute de quoi on va voir le paysage culturel à Neuchâtel se réduire.
Et vous allez nous dire pourquoi on va en parler. Lionel Gaffner, le canton de Berne qui alloue moins d'1% à la culture, selon nos calculs. Est-ce qu'une telle revendication vous séduit, vous aussi? Est-ce que ce ne serait pas la bonne manière d'assurer des fonds à votre domaine d'activité, vous qui devez gérer avec les aléas des budgets à la baisse ou la volonté politique qui peut varier?
Alors, moi, je trouve cette idée de quota est tout à fait intéressante, pourquoi pas. Maintenant, on sait de toute façon qu'en effet, les fonds, de manière générale, sont toujours insuffisants pour la culture, mais il est quand même toujours bon de souligner que, de part et d'autre, lorsqu'il y a des réflexions qui sont menées comme ça, notamment au niveau des acteurs culturels, il y a également d'autres besoins et d'autres manques qui sont identifiés, et des fois c'est pas toujours l'argent en premier lieu. Après, j'entends bien les arguments côté Neuchâtel, et c'est vrai qu'ils sont complètement pertinents. Le développement en 25 ans qui s'est fait sur leur territoire justifie complètement à mes yeux une demande telle que celle-là.
Lionel Gaffner, on vous entend pas très très bien. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous rappeler. Si vous avez un kit main libre, on va vous demander de plutôt téléphoner avec le téléphone à l'oreille, et ça ira normalement beaucoup mieux. Alors à tout de suite, vous restez avec nous. Mathieu Beglin, vous l'avez entendu, hein, c'est une idée qui peut séduire au-delà du canton de Neuchâtel. Vous en avez cité des manifestations. Alors on pourrait vous dire, puisque la culture est foisonnante, puisqu'il y a des rendez-vous d'ampleur, des théâtres, des festivals, des concerts, etc., visiblement tout va bien. Pourquoi l'argent manque à la culture?
Bon, déjà, soyons clairs, l'argent c'est un moyen, c'est pas un but pour nous. Mais c'est les moyens de pouvoir travailler convenablement, c'est les moyens aussi de pouvoir simplement rémunérer les gens pour leur travail. Et c'est là le constat qu'on a pu faire, on serait en état généraux de la culture entre acteurs culturels et de différents domaines, c'est qu'il y a une part aujourd'hui de bénévolat, de volontariat de la part des acteurs culturels qui n'est plus tenable. Simplement, sur la durée, c'est pas possible. On s'épuise, on s'use et in fine, les gens vont finir par émigrer. Donc, le problème pour nous, c'est de maintenir ce foisonnement, de lui permettre de se développer, mais que ça ne soit pas premièrement le fait du volontariat des acteurs culturels, mais qu'on reconnaisse aussi l'importance de ces métiers.
Ça veut dire que tout tient qu'à un fil dans ces manifestations que tout le monde célèbre, je ne sais pas, le NIF, Festineuge, le Festival des Six Pompes?
Ben, ça tient qu'à un fil. La plage des Six Pompes, par exemple, en tant que festival, a tiré plus d'une fois la sonnette d'alarme, avait même fait, il y a deux éditions, une décoration qui disait les manques de budget qu'ils avaient. Juste pour vous donner un chiffre, hein, le budget de la plage des Six Pompes est de plus de 1,6 million. L'État donne 14 500 francs. On n'est même pas au pour 1000, là.
Et plus d'argent, qu'est-ce que ça peut changer aussi pour le public? Là, on a l'impression qu'on parle plutôt des conditions des acteurs culturels, très bien. Et pour le public, qu'est-ce que ça change?
De notre vision des choses, cet argent sert justement au public, c'est-à-dire il permet d'éviter qu'on reporte l'entier du coût d'une création ou d'une manifestation sur le public et donc sur les billets d'entrée. La plage des Six Pompes, on en parlait, c'est un très bon exemple, c'est gratuit. Donc si c'est gratuit, il faut bien que le financement vienne d'ailleurs. Alors le public finance à travers le chapeau, il finance à travers les bars, mais au bout d'un moment, il faut quand même aussi que l'État finance, parce que la culture ne survit pas dans ses formes actuelles, dans un contexte purement économique.
Lionel Gaffner, vous êtes de retour avec nous. On dit souvent que l'argent dédié à la culture n'est pas perdu, mais investi, ça rapporte. Alors pourquoi pas davantage miser sur le secteur privé? Finalement, vous exercez une activité rémunératrice comme une autre.
Oui, alors bon, déjà la plupart du temps, ces constats d'argent investi dans la culture qui rapportent partent d'études d'impact. Et moi, j'ai tendance à prendre ces études-là plutôt avec des pincettes, parce que pour moi, elles ont quand même, alors bien qu'elles mettent en avant des réalités qui sont importantes de souligner, ça a quand même souvent provocation de justifier le fait que la culture doit avoir une certaine rentabilité. Et pour moi, il y a certains biais qui se posent là-dedans. Maintenant, la question de partenariat public-privé, de lever des fonds auprès de fondations, etc. Moi, j'ai absolument rien contre, mais il faut toujours bien avoir en tête que la plupart du temps, ces modes de faire sont valables pour des événements, la plupart du temps ponctuels, ou des événements, cela dit, d'envergure. Et moi, j'ai toujours tendance à penser qu'il faut, en termes de politique culturelle, veiller à mettre en place des cadres souples mais favorables au développement et au foisonnement dont parlait M. Becklin tout à l'heure. Et ça, c'est très important, notamment pour les petites institutions, les petits acteurs culturels. Et ces conditions-là doivent être mises en place. Et c'est pas par ces biais-là que ça peut être pérennisé, à mon avis.
Un avis que vous partagez, on imagine, Mathieu Becklin, je vous repose quand même la question à vous. Pourquoi ne pas en appeler davantage au privé pour soulager l'État dont on sait qu'il a déjà beaucoup de dépenses à devoir assumer?
Mais je rejoins effectivement M. Gaffner là-dessus parce que, comme je le disais tout à l'heure, la culture n'est pas soluble dans le marché. Ça n'est pas possible. Sinon, alors on n'a plus qu'une culture industrielle qui existe par exemple dans le cinéma, une certaine portion du cinéma, ou dans la musique, une certaine portion de la musique. Mais toute la créativité, l'inventivité, c'est-à-dire le droit à l'erreur, la recherche, se planter, ça, ma foi, ça ne fait pas partie des éléments que l'économie en soi conçoit.
Mais les entreprises aussi se plantent, font des erreurs. Pourquoi il en serait différemment pour la culture?
Est différemment parce que la culture, elle est consubstantielle de l'être humain. C'est un besoin vital, quand bien même il n'est pas physique ou matériel. Mais s'il y a plus de 70 000 ans, c'est les dernières traces qu'on a trouvées en Afrique du Sud, on s'est mis à peindre sur les murs, alors qu'on n'en avait pas besoin pour survivre, pour manger, pour cueillir, c'est qu'on en a besoin en tant qu'être humain. Et c'est là où l'État, lui, ne va pas s'acheter une image, ne va pas chercher à faire un plan de com en soutenant un événement ou un autre, il va chercher à favoriser cet élément culturel qui est intrinsèque à l'être humain.
Lionel Gaffner, on parle quand même de cantons modèles qu'on pourrait comparer avec les cantons de l'arc jurassien en termes peut-être de taille, c'est le Valais ou Fribourg. Pourquoi ces cantons attirent autant favorablement votre attention?
Mais je pense là particulièrement, en tout cas au cas du Valais, c'est vrai que c'est un canton qui est souvent cité en termes d'exemple. Ben, premièrement, dans les comparaisons qu'on pourrait faire, notamment avec le Jura, c'est que c'est des cantons qui sont plutôt excentrés. Et par exemple, moi qui travaille au Forum Culture, donc qui regroupe le canton du Jura, le Jura bernois et la ville de Bienne, on a notamment affaire, pas dans le cadre du Forum Culture, puisque c'est une association qui a pour but de promouvoir les arts de la scène au niveau roman, donc il n'y a pas ce aspect du bilinguisme, mais par contre c'est un aspect qui est très important pour le Valais. Et toutes ces aspects très complexes ont fait que à un moment donné, il y a eu besoin d'une réelle mobilisation et d'inventer des manières de faire pour pérenniser et développer la culture dans ce canton. Et il se trouve qu'il y a eu une conjonction, je pense, de bonnes personnes et de bonnes questions qui ont été posées au bon moment. Et il y a eu des développements, notamment via Culture Valais, Théâtre Pro, etc. Là, je pense aux institutions. Mmh. Du côté des acteurs culturels, il y a l'opération 20 ans sans francs qui a été mise en place. Et toutes ces choses ont fait que sur le moyen terme et le long terme, ça a permis de mettre en place des conditions qui ont été très, très favorables au développement de la culture dans ce canton. Et ça a permis de rayonner et de faire parler d'eux et d'inspirer ce canton. Et ça, je pense que c'est très précieux.
En un mot pour conclure, Mathieu Becklin.
Oui, très rapidement, le Valais est cité en exemple parce qu'il y a une volonté politique qui se traduit par des moyens et le Valais est au pourcent culturel. Ils dépensent 1% de leur budget pour la culture.
Voilà qui est dit. Merci à tous les deux, en tous les cas, d'être venus parler culture. On vous souhaite une bonne soirée et puis, bien sûr, bonne suite dans vos activités respectives.
Merci, bonne soirée.
Merci à vous.
Place publique.